Miner la vie, l'industrie minière canadienne en Amérique latine. En 2014, le Tribunal permanent des peuples s'est tenu à Montréal, au Canada, où a eu lieu l'audience intitulée « L'industrie minière canadienne en Amérique latine ». Divers témoignages y ont été présentés sur les violations de droits humains que cette industrie commet à l'encontre des communautés et de l'environnement, en plus de souligner le rôle joué par l'État canadien dans ces violations. Près de 10 ans après le tribunal, nous constatons que l'industrie minière s'est étendue à presque tous les pays d'Amérique latine, se consolidant pendant et après la pandémie de la COVID-19 comme une industrie essentielle en raison de la pression exercée par les compagnies minières auprès des gouvernements. Malgré la destruction et les dégâts que cette industrie laisse derrière elle, nous constatons que de nombreuses leçons ont été tirées dans différentes régions d'Amérique latine. C'est pourquoi, au Comité pour les droits humains en Amérique latine, nous avons entrepris de rassembler les voix des défenseurs des droits du Canada au cône sud pour lancer une série de balado-diffusion appelée « Miner la vie, minando la vida ». Dans 4 épisodes, nous racontons des expériences de lutte et dénonçons les nombreuses conséquences du modèle extractif canadien en Abya-Yala. Dans ce premier épisode, nous allons voir pourquoi et comment l'industrie minière canadienne s'est autant développée sur notre continent en montrant quelques exemples en Amérique latine. Pour ce faire, nous avons invité 3 militants ayant une longue histoire de lutte contre l'exploitation minière au Canada et en Amérique latine. L'histoire du développement de l'industrie minière en Amérique latine remonte au début des années 1990 avec la signature d'accords de libre-échange en divers pays et le Canada. Cependant, la présence des minières canadiennes dans certains pays était déjà évidente avant les accords commerciaux, comme au Guatemala, au Pérou et au Chili, pour n'en citer que quelques-uns. Cette industrie était liée à des gouvernements autoritaires pendant des périodes très dures, par exemple durant la guerre civile au Guatemala. À ce sujet, nous avons invité le fondateur de Rights Action, Graham Russell, à nous parler du cas de la mine de nickel Phoenix, une propriété d'une entreprise canadienne à Elestor.
Il y a une histoire grosse entre Inco.
Dans le cas de la mine de Phoenix, c'est le point à souligner à mon avis. Il y a une longue histoire entre l'entreprise canadienne Inco, International Nickel Company, et le propriétaire de la mine dans les années 70-80. Bien que la filiale s'appelait Exmebol, le propriétaire était Inco. Ils ont été dénoncés, mais la justice n'a pas été rendue et cela n'a pas été beaucoup dénoncé au Canada. Ils ont joué un rôle direct dans la dégradation de la situation au pays en coopérant avec l'armée dans la région où habitait le peuple Kekchi. Ils ont prêté leurs biens acquis illégitimement à l'armée guatémaltèque qui a envoyé un détachement sur la propriété d'Inco dans les pires années du génocide pour mener la répression contre le peuple Kekchi, comme ce qui se passe maintenant avec Hub Day Minerals. Lorsqu'ils entraient dans les villages pour mener la répression, les expulsions, ils voyageaient avec les camions de la minière.
Les impacts de l'exploitation minière canadienne ne se limitent pas seulement au Guatemala. Le modèle destructeur canadien se répète partout sur le continent. Nous avons demandé à Jen Moore, activiste canadienne et chercheuse affiliée au projet sur l'exploitation minière et le commerce à l'Institut d'études politiques de Washington, comment les industries minières s'installent-elles en Amérique latine.
Les investissements miniers canadiens se sont considérablement développés en Amérique latine au cours des 2 dernières décennies, parallèlement à l'intensification de la violence et de la militarisation dans les régions touchées. L'orientation de la politique étrangère du Canada dans ce secteur a été d'encourager les pays hôtes à devenir plus dépendants de l'industrie extractive, notamment par la privatisation de l'extraction minière et une croissance économique axée sur les exportations des matières premières. En général, le modèle minier fait référence à l'exploitation minière industrielle en tant qu'activité extractive, intensive, se déroulant dans un cadre juridique, économique et politique, axé sur le marché des matières premières et la recherche des profits par les sociétés minières. En même temps, il externalise de graves impacts sociaux et environnementaux qui perdurent pour les communautés affectées, en particulier les peuples autochtones. Le Canada est l'un des principaux promoteurs de ce modèle, tant chez lui qu'à l'étranger. Les bourses canadiennes se sont spécialisées dans le financement de l'exploitation minière à un stade précoce, ce qui a donné naissance à environ 60% des sociétés minières du monde. Plus de 1300 sociétés sont cotées dans les bourses canadiennes, dont la grande majorité n'ont pas de projets miniers en cours, mais sont plutôt des sociétés de prospection et d'exploration qui spéculent sur d'éventuelles découvertes de minéraux. Cela explique en partie pourquoi les entreprises canadiennes sont souvent les premières à être rencontrées dans les communautés touchées par l'exploitation minière, bien avant la construction d'une mine, mais souvent au moment même où de graves conflits commencent à apparaître.
L'audience du Tribunal des peuples, qui s'est tenue à Montréal en 2014, s'inscrit dans la quête de justice de la société civile internationale contre l'arbitraire des compagnies minières. À cet égard, nous nous sommes entretenus avec Marie-Ève Marleau, la coordonnatrice du CEDAL.
Cette industrie est criminelle parce qu'elle n'a pas seulement détruit des écosystèmes, mais elle a aussi tué des personnes, déplacé des communautés, parce que son installation est souvent liée au crime organisé puis aux groupes militaires. Partout dans le monde, son mode de mise en œuvre puis de fonctionnement est prédateur. Il va de pair avec le système capitaliste et néolibéral. Grâce au Tribunal permanent des peuples sur l'industrie minière, puis à l'accompagnement des mouvements sociaux puis des communautés affectées par l'exploitation minière canadienne, nous avons réalisé que les droits à la vie, à un environnement sain, le droit à l'autodétermination des peuples, puis une série de droits et libertés liés à l'exercice de la démocratie et de la citoyenneté sont violés de manière systématique et systémique. Les entreprises coopent, achètent violemment les autorités locales puis les leaders sociaux. Elles menacent les communautés, criminalisent les défenseurs des droits humains jusqu'à aller les assassiner. Les lois, les politiques internationales, le lobbying canadien, les accords de libre-échange ainsi que le manque d'accès à la justice permettent aux compagnies minières de rester impunies et de poursuivre leur modèle destructeur.
Il existe de nombreux cas de corruption et d'impunité impliquant le gouvernement canadien dans les actions des sociétés minières canadiennes dans les pays d'Amérique latine. La pression politique internationale exercée par le Canada est généralement utilisée pour faire passer les intérêts et les profits des compagnies avant les droits des populations affectées par l'exploitation minière. Au Guatemala, il y a eu des exemples concrets de cette situation. En 2010, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a émis une demande de suspension des opérations de la mine Marlin dirigée par l'entreprise Goldcorp. Graham Russell raconte que cette décision a été suivie d'une vague de pression menée par des responsables canadiens.
Dans les années 2010-2011, il y a eu une affaire devant la Cour fédérale canadienne sur le rôle du gouvernement canadien dans la dissimulation d'informations, des documents, des e-mails, des correspondances, des communications entre Global Affairs à Ottawa et l'ambassade du Canada au Guatemala, à propos de son implication pour affaiblir la Commission interaméricaine des droits de l'homme qui avait ordonné la suspension de la mine Marlin, et ça a été un coup dur. Par le biais de la Commission interaméricaine, plusieurs groupes, dont Right Action et Breaking the Silence, ont participé à cet effort pour obtenir la suspension de la mine et cela a été fait, même s'ils n'ont pas respecté la décision au final.
Le lobby minier est un outil fondamental pour la mise en œuvre des projets miniers canadiens en Amérique latine. Qu'est-ce que le lobby minier? Jen Moore nous partage son analyse.
C'est ce que le gouvernement canadien appelle la diplomatie économique. Au niveau des politiques, dans les années 1980, le groupe de la Banque mondiale, avec le soutien de plusieurs gouvernements du Nord, dont le Canada, a poussé les efforts pour instituer des réformes du code minier dans un pays après l'autre, afin de faciliter les investissements privés étrangers. Au début des années 2000, on estime que de telles réformes minières ont été adoptées dans près de 100 pays. Ces réformes ont supprimé les restrictions sur la propriété étrangère et le rapatriement des bénéfices, réduit les taux d'imposition et les redevances, mis fin aux obligations d'embauche et d'approvisionnement local, érodé les protections du travail et changé les processus administratifs pour faciliter l'octroi de permis d'exploitation minière.
Jen Moore ajoute également que le lobbying minier est une pratique qui bénéficie d'un fort soutien politique de la part du gouvernement canadien.
Le gouvernement canadien a fourni un soutien stratégique à la formulation de politiques et de projets clés dans plusieurs pays, en utilisant toutes les sphères de son gouvernement, dont la coopération internationale, la diplomatie et le commerce, pour influencer le changement des réglementations nationales, notamment en Colombie, au Honduras, en Équateur et dans d'autres pays d'Amérique latine. En plus du lobbying au nom de l'industrie canadienne, le gouvernement canadien fournit également de nombreux services aux sociétés minières pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les peuples autochtones, les communautés touchées et les travailleurs locaux au sein des projets d'exploitation.
Les entreprises et le gouvernement canadien se sont réfugiés contre les allégations de responsabilité des entreprises derrière la création de soi-disant mécanismes de régulation, tels que la médiation ou la loi sur la corruption d'agents publics étrangers. Bien que ces efforts ont été présentés comme des solutions possibles, plusieurs militants et chercheurs remettent en question leur fonctionnement. C'est d'ailleurs le cas de notre invité Graham Russell.
Selon moi, il est encore important dans notre travail au Canada de dénoncer tout le cadre de la soi-disant responsabilité des entreprises. Il y a eu des progrès. Je pense que de plus en plus de gens savent que c'est un discours vide. De moins en moins de gens ont confiance en les médiateurs sur la responsabilité des entreprises parce que le gouvernement canadien finance leurs bureaux. Il est connu que c'est pour garantir l'impunité et l'immunité de l'utilisation du droit pénal ou du droit civil. Mais cela vaut la peine de le répéter à chaque fois, que toute la question de la responsabilité des entreprises est de garantir l'impunité.
Avec les trois témoignages présentés dans ce programme, nous comprenons mieux comment le modèle extractiviste canadien génère des violations systématiques de droits humains en Amérique latine. Ces méthodes se sont perfectionnées depuis plusieurs décennies, grâce à des lois et au soutien politique du gouvernement canadien à travers son lobby minier. Dans les prochains épisodes de cette série « Miner la vie », nous parlerons des conséquences de l'exploitation minière canadienne et des expériences de lutte dans différentes régions d'Amérique latine. Nous vous invitons à les écouter. Rapporte Annabelle Bricot du Comité pour les droits humains en Amérique latine depuis Montréal, Canada.